Allô.
Fréquence Terre.
En direct du salon Planète Durable au Parc des Expositions dans la ville de Paris, et vous nous écoutez certainement sur Internet. Vous nous écoutez aussi via nos radios partenaires qui nous retransmettent un petit peu partout en France et dans le monde. Nous sommes écoutés et repris au Canada, nous sommes écoutés et repris en Afrique, et on va organiser notre petit débat. Donc c'est un débat avec Hélène Delamourère, fondatrice de Bilhomme, des sacs, des accessoires en matière recyclée. J'ai été voir votre site internet, bonjour.
Bonjour.
Nous avons avec nous Adrien Lepage de Marcel Green qui va animer ce débat, cette interview. Marcel Green présent sur ce salon tout ce week-end et jusqu'à dimanche soir.
Rebonjour.
Alors j'ai été voir, hein, moi je le disais sur... en entrée sur votre site un petit peu ce que vous faisiez. Donc globalement vous utilisez des matières existantes déjà utilisées. Là on va parler de bâches. Alors ce sont ces bâches qui recouvrent en général les chantiers, les échafaudages qui sont sur le devant des immeubles. Vous les récupérez et vous en faites des sacs à main, c'est ça?
Voilà, mais entre les deux il y a beaucoup de petites étapes.
Voilà.
En fait l'idée de Bilhomme c'était de récupérer des matières qui sont normalement mises au rebut et que l'on va transformer de façon... en leur apportant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le upcycling, donc en leur donnant une dimension de qualité et de nouvelle vie qui soit plus esthétique ou différente de leur première vie. Et en fait, j'ai commencé avec les bâches publicitaires géantes parce que d'abord, rien ne se faisait dans ce monde-là en France il y a 6 ans, quand je me suis lancée avec Bilhomme. Et parce que c'est un monde que je connaissais bien puisque je viens du monde de l'événementiel et de la publicité. J'y ai travaillé pendant 7 ans. Aujourd'hui, donc 6 ans après, on a eu l'occasion de recycler moult matières. Donc depuis le démarrage, les bâches publicitaires géantes que l'on trouve sur les façades d'immeubles en travaux, le périphérique parisien, les grands événements comme ici d'ailleurs sur les parcs d'exposition de toute la France. Les hanches et poignets sont faits avec des ceintures de sécurité qu'on récupère dans les casses.
D'accord.
Au tout début de Bilhomme, quand j'allais moi-même chercher les hanches et poignets, quand j'allais moi-même chercher les ceintures dans les casses avec armé de mon cutter et d'un sac énorme pour les mettre les unes derrière les autres, enfin je rentrais dans les voitures par les fenêtres, je suis tombée 2-3 fois sur des airbags explosés. Par chance, je n'ai jamais eu d'accident de ma vie, donc je ne savais pas à quoi ressemblait un airbag. Enfin, je pense que j'aurais pas le temps, mais la matière est absolument extraordinaire. Et c'est ça aussi c'est aussi une de mes quêtes avec Bilhomme. C'est pas juste de faire des poubelles et de récupérer des matières et les transformer, c'est vraiment de transformer des matières qui aient vraiment des propriétés soit d'esthétique, soit de technique qui soient vraiment différentes, ou qui méritent en tout cas d'y apporter une seconde vie et donc de prendre le temps de lui donner cette seconde vie. C'est énormément d'étapes, le recyclage.
Oui, parce qu'il y a donc d'abord le repérage d'une bâche, puis aller faire des casses automobiles. Alors ça, j'avais pas saisi un petit peu cette étape-là. On vous autorise à rentrer facilement dans les casses, oui c'est...
Non, mais on se débrouille.
Vous passez par le grillage?
Non, il y a des chiens dans les casses. Non, parce qu'en plus, pour la petite histoire, quand je suis allée présenter mon projet à une casse, le directeur de la casse a trouvé le projet amusant. Il m'a dit pas de problème, on t'ouvre les portes quand tu veux, mais que à partir de 5h30 du soir, puisqu'avant il y a les grosses machines
qui transportent
les voitures. Ouais. C'est hyper dangereux, donc tu peux venir qu'à partir de 5h30 le soir, donc ça veut dire que la nuit j'avais une lampe frontale. Tu ne viens pas avec des amis mecs, parce que les hommes dans les casses repèrent la portière pour pote qui a cassé sa 406 ou machin, donc tu ne viens qu'avec des filles, donc ça les amusait beaucoup d'avoir une armada de jeunes femmes qui venaient avec des sacs poubelles et des cutters pour aller chercher des ceintures. Mais non, mais en fait, c'est plus amical. C'est-à-dire qu'ils m'ont laissé rentrer parce qu'ils ont trouvé le projet amusant. Eux ne savaient pas quoi faire de leur ceinture. Il faut savoir qu'une ceinture de sécurité, c'est une des matières les plus solides qui existent.
Ouais.
Les ceintures de sécurité mises au rebut, donc celles qui ne passent pas les tests de
le crash test ?
Non, avant ça. Vous savez, quand elles sont fabriquées au rouleau, beaucoup sont fabriquées en France d'ailleurs, mais elles sont fabriquées au rouleau, si elles ne passent pas le petit laser de sécurité, vous savez, les...
Ouais, c'est complexe, alors là, je ne connais pas le...
Ça veut dire qu'elles ne sont pas assez résistantes.
Si elles ne sont pas assez résistantes, on ne le voit pas, nous, à l'œil nu, mais c'est des milliers de petits fils qui sont... Si elles ne passent pas ces contrôles qualité, elles partent dans les ports et c'est ce qui va tirer les bateaux. C'est une des matières les plus solides au monde, pour la petite histoire. Il faut que ça résiste à 2 tonnes de...
De traction.
Faut que ça reste à 2 tonnes de pression.
D'accord. Donc, alors vous récupérez les ceintures. Vous disiez que vous récupériez les airbags aussi. C'est ça, c'est la nouvelle matière que vous utilisez.
Voilà. Donc
les bâches plastiques, les airbags. Alors là aussi, donc nouvelle collecte dans les casses automobiles.
Oui, là, on s'est un peu mieux organisé. Ah. En fait, déjà, on récupère les airbags qui n'ont pas explosé, parce que d'abord, c'est peut-être moins glauque. Et puis, oui. Surtout, c'est pour des raisons techniques, en fait, de gaz qui font exploser les sacs qui ne sont pas des gaz très, très sympathiques. Donc, en fait, on récupère les airbags avant qu'ils aient explosé.
Alors, comment on récupère un airbag avant qu'il explose?
En fait, je travaille avec différentes.
Vous êtes devenue technicienne,
ont...
alors,
ah,
finalement.
Je suis une super technicienne.
De la casse automobile.
Je suis une super technicienne. J'ai fait des études de bio, mais je suis une ingénieure en herbe.
Comment on récupère un sac qui n'a pas explosé?
Non, mais ça, c'est le métier vraiment. C'est la casse partenaire avec laquelle je travaille qui arrive à la récupérer en ouvrant le volant, enfin, en faisant attention, en démantelant.
Donc, il vous aide maintenant.
Comment?
Il vous aide maintenant.
Il m'aide, mais alors en fait la différence c'est qu'avant il m'ouvrait les casses et j'allais moi-même chercher mes ceintures c'était en toute amitié. Aujourd'hui je le rachète, c'est-à-dire que...
Ah voilà, il y a du commerce qui s'est installé quoi.
Voilà, à partir du moment où il y a du temps, où il y a quelqu'un qui derrière va couper une ceinture ou prendre 20 minutes pour enlever un sac airbag d'un volant, je le paye, c'est normal, lui c'est du temps... C'est là, en fait, il y a une notion très importante par rapport à mon métier et à ceux de mes confrères et consoeurs, puisqu'on est quand même pas mal dans le monde, c'est que le recyclage, c'est énormément d'étapes et c'est énormément de temps. Et le premier temps, c'est d'aller récupérer la matière.
Alors moi, je ne me représente pas le volume. Quand vous dites « je vais collecter », est-ce que vous allez collecter des airbags et des ceintures tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Combien vous en récupérez à chaque fois?
Bah, ça va vraiment dépendre.
Là, ça fait un peu système D pour le moment, ce que vous m'expliquez. Bah, là, c'est en train de s'organiser.
C'est vraiment de mieux en mieux organisé. C'était du système D il y a 4 ou 5 ans quand j'allais les chercher moi-même. Aujourd'hui, en fait, on passe vraiment nos commandes auprès de nos casse partenaires.
Pas banal comme fournisseur.
Non, c'est pas banal. Ça les amuse beaucoup d'ailleurs. Ceci étant, Bilhomme est devenu un de leurs clients comme un autre de leurs clients pour le verre ou pour le métal. Ou nous, on est une des étapes intermédiaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais puis en plus je connais mal les chiffres, mais je crois qu'il faut qu'en 2020, 95% des voitures soient recyclées. Ça se parle en poids. Or, une ceinture de sécurité ou un airbag, c'est juste 0,00000001% du poids d'une voiture. Mmh. Mais mine de rien, au plus, ils peuvent trouver des solutions de recyclage plutôt que de la déchetterie ou de l'incinération. Au mieux, c'est pour tout le monde, donc on s'entraide.
Et puis en plus, là, il y a un bénéfice qui arrive pour eux directement. Juste, avant de passer la parole à Adrien, parlez-nous un peu du volume que ça représente, toutes ces collectes. Vous n'en avez pas parlé.
Je vais parler de la bâche, parce que je connais, c'est quand même quelque chose que je travaille depuis 5 ans. Il faut savoir que rien qu'à Paris, il y a plus de 200 000 m² de bâches publicitaires par an. Cette année, on a dû produire à peu près 7000 sacs, ça représente à peu près 7000 m². Donc vous imaginez le marché du entre guillemets du déchet industriel qu'on utilise, enfin industriel ou de ces outils de communication. Enfin aujourd'hui il est presque infini. Donc les volumes sont minuscules par rapport au potentiel.
Alors justement, vous parliez de bâche, vous parliez de sac également. Comment est-ce qu'on arrive d'une bâche publicitaire jusqu'à un sac? Quelles sont les étapes justement dans la fabrication, dans le découpage, dans la reconstitution des différents éléments, des pièces? Où est-ce que vous faites ça? De quelle manière vous travaillez?
Alors, on prend notre petit berlingot. On va chercher la bâche là où elle est soit déposée, donc parfois à 6h du matin au pied d'un immeuble, soit la plupart du temps chez les poseurs et déposeurs qu'on appelle les assembliers qui posent et déposent ces bâches, sont des alpinistes. Enfin, il faut savoir, on a du mal à se le représenter. Moi, je l'ai fait pendant 7 ans, j'en ai vendu pendant 7 ans quand j'étais dans l'événementiel. Quand j'en ai eu une au sol et qu'on m'a dit, c'est bon, serre-toi, tu peux la prendre, puisque je faisais des pieds et des mains pour avoir une bâche pour,
peser lourd,
pour
oui.
tenter. Non, mais c'est énorme, c'est la taille de cette table. Donc, pour les auditeurs, c'est 2,50 m sur 1 m, sur 1 m de haut. Ce sont des monstres pour une bâche moyenne de 400 m². Donc en fait les étapes c'est on va les chercher avec notre petite camionnette. Mmh. Elles sont pliées, on les amène dans notre petit atelier à Choisy-le-Roi qui est à 7 km de Paris. Là on les déploie, faut être au minimum 3 pour une bâche de 200 m², 3, et ensuite on va choisir chacun de nos morceaux. Et là c'est très important parce que c'est encore une fois beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on va aller, on a nos patrons, nos patronages,
c'est là,
selon les modèles.
Que commence vraiment le travail de confection. Vous prenez toutes les bâches.
Non, justement, le premier travail, c'est le repérage, qui est très long. Le repérage, et donc aller appeler les annonceurs, aller leur expliquer la démarche, et obtenir d'eux leur accord, parce que je ne récupère aucune bâche si je n'ai pas l'accord de l'annonceur.
L'annonceur étant la personne qui est marquée sur la bâche, c'est
voilà,
la marque.
Le payeur.
Exactement.
Qu'est-ce qu'elles deviennent ces bâches si vous ne les récupérez pas?
Oh, il y a plusieurs réseaux. Ça va des agriculteurs qui le récupèrent pour protéger leurs champs de pommes de terre l'hiver. C'est assez.
Il y a déjà des utilisations.
Il y avait des
ça va pas à la poubelle directe.
Non, ça va pas à la poubelle directe, mais ça c'est vraiment
anecdotique.
Oui, c'est anecdotique, mais bon voilà, ça c'est une des voies, c'est qu'il y a des gens. Moi, on m'en demande pour recouvrir des piscines, des bateaux, nous on en donne aussi beaucoup pour faire on donne beaucoup de nos déchets quand ce sont des morceaux unis pour faire des tableaux. On donne ça à des écoles ou à des peintres. Mais sinon bon, donc ça c'est anecdotique. Sinon la plupart du temps elles sont incinérées.
Ah oui, on brûle le plastique.
Et sinon, on le brûle, c'est du PVC, donc c'est extrêmement polluant. Et sinon, il y a une usine, un procédé Texiloop en Italie qui les recycle. Donc eux, ils vont reséparer le maillage de nylon et de PVC pour en faire des moquettes ou des différentes choses, des terrains de gazon pour foot, etc. Donc aujourd'hui, pareil, il y a tellement de surface de mètres carrés de bâches par an que cette usine qui est seule aujourd'hui en Europe, n'arrive absolument pas à subvenir
de recyclage que ça lui impose.
C'est mieux en sac à dos qu'incinéré dans l'air, de toute façon.
C'est clair.
Alors, une fois qu'elle est au sol, donc, vous la découpez.
Alors, une fois qu'elle est au sol,
c'est quasiment de la direction artistique, en fait, puisqu'il faut choisir dans une bâche qui est gigantesque, dans le
oui,
détail.
Oui, puisque si vous choisissez mal le morceau, vous produisez un sac qui ne sera jamais vendu. Donc, effectivement, là, on a un gros travail. Donc, en fait, nous, notre premier travail, ça va vraiment être d'aller chercher les bâches, puisque si on choisit une bâche qu'on ne va pouvoir recycler qu'à, on va dire, 30%. Moi, après, je me retrouve avec 70% de bâches à jeter. C'est quelque chose que j'ai en horreur. Donc, on est très, très sélectif et on prend un très soigneux sur le temps et le...
Qu'est-ce qui attire votre œil en premier ?
Les détails, les couleurs. Les détails et les couleurs. Enfin, là, rien qu'en arrivant sur la porte de Versailles, je sais exactement les couleurs.
Vous avez déjà fait votre marché, là ?
Et ce qui est amusant, c'est que là, vous avez la collection dans 3 mois, en fait. Quand vous ressortirez tout à l'heure, vous regarderez. Donc, dans 3 mois, c'est ça qui seront sur.
On aura les sacs de planète durable.
Oui. Mais ça aussi, d'ailleurs, enfin, je réponds d'abord à la question d'Adrien. Nous, on sélectionne d'abord la bâche, parce qu'effectivement, notre premier travail, notre premier œil, c'est celui-là. C'est de savoir, quand vous avez une bâche de 1000 mètres carrés sur le périphérique parisien, c'est quand même Enfin, il faut avoir un peu un œil aguerri pour savoir si. Averti, pardon. Ça se dit aussi ouf.
Oui, ça peut.
J'ai pas l'habitude de radio. Pour savoir ce que ça va donner en sac, puisqu'en fait, il faut savoir qu'il faut à peu près 1 mètre carré pour faire un sac. Donc nous, en fait, en gros, on va découper la bâche en 1000 petits morceaux, et on va voir si oui ou non il y a un potentiel dans cette bâche. Donc et ensuite, une fois qu'on l'a au sol, là, on va effectivement poser nos patrons. Donc les patrons étant les
formes de découpe.
Les formes de découpe pour nos sacs. Et là, on va choisir chacun de nos modèles. Et ensuite, on les fait nettoyer par le personnel d'entreprise d'insertion sociale qui viennent chez nous, dans nos locaux, dans notre atelier showroom à Choisy-le-Roi. On travaille avec Art Service, qui est une remarquable association d'entreprise d'insertion sociale qui détache du personnel, qui vient laver recto verso avec des lessives vertes, évidemment, les bâches, puisqu'on ne va pas les laver au Karcher avant qu'elles ne soient découpées. Et ensuite, ça part dans des ateliers français, spécialisé en sellerie et bagagerie pour les bâches, puisque la bâche est une matière extrêmement solide, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de la récupérer et de la transformer. Et on travaille avec des ateliers qui travaillent le cuir. J'ai démarré avec un ESAT en région parisienne qui faisait avant des cartables.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un ESAT pour nos auditeurs?
Oui, pardon. Un ESAT, établissement et service d'aide par le travail, anciennement appelé des CAT, centre d'aide par le travail, qui accueille des personnes handicapées.
Donc eux, ils confectionnent, c'est-à-dire qu'ils prennent le patron, ils découpent le modèle.
Alors au départ, on les coupait avec eux, donc j'étais toujours derrière eux et on les découpait. Moi, on découpe chez Bilhomme, on découpe les grandes formes, et après eux découpent la forme très précisément pour après la faire en sac. Et j'étais derrière eux au départ pour découper les sacs, donc notamment derrière Philippe qui, au bout de je sais pas 3-4 séries, m'a dit écoute Hélène, je crois que c'est bon, j'ai compris ce que tu voulais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est amusant, et c'est aussi en sac, on aime beaucoup travailler ensemble, c'est que moi, je sais qu'ils ont parfaitement compris ce qu'on veut quand aujourd'hui on leur donne une forme de sac. Et eux, ils ont cette liberté, plutôt que des sacs tout noirs qu'ils vont faire pour l'armée ou pour. Parce qu'ils ont différents clients. C'est que là, ils vont s'amuser parce qu'ils ont aussi une liberté dans le choix final du morceau qui va être mis soit à l'envers, à l'endroit.
Ah oui, vous ne donnez pas forcément le...
Ça dépend. Sur certaines séries, oui.
Le dessin...
Sur certaines séries, on le donne. Et parfois, je leur donne des grands patrons et on travaille ensemble main dans la main.
Ils ont
et ça fait partie du deal,
quoi.
En fait, avec... Voilà.
Est-ce que ça fait au final des modèles uniques ou est-ce que,
ah oui,
comme vous dites, vous
parlez
de série à l'instant, là, non ?
Quand j'appelle une série, c'est-à-dire qu'on va lancer par série, puisqu'on travaille avec des ateliers professionnels, donc on ne fait pas un sac, je n'ai pas moi un atelier dans nos bureaux. Donc on travaille avec des ateliers professionnels qui ont besoin de travailler en série, c'est-à-dire qu'on lance des séries de 50, 100 ou 200 pièces. En revanche, chaque pièce sera effectivement unique, puisqu'on va tailler dans une bâche qui a été imprimée, sur laquelle on ne va évidemment pas du tout réimprimer. Donc chaque pièce est unique.
D'accord. Et après, donc, ça se retrouve sur Internet, par exemple sur le site de Marcel Green, où on peut venir se les procurer, c'est ça ?
Exactement. Ou sur le nôtre.
Alors, on peut parler un petit peu des coûts de tout ça. Donc, vous achetez de la matière première, soit dans des cases. Les bâches, vous les récupérez, vous les payez ?
Non, justement. Les bâches, je ne les paye pas. La première bâche que je me suis, entre guillemets, enfin, que je nous ai offerte chez Bilhomme, c'est récemment la bâche de Monet, l'exposition de Monet au
D'accord.
Grand Palais. La RMN Grand Palais nous a appelés pour nous confier et nous proposer cette toile et nous mettre en relation avec le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg qui détient les droits d'image de cette toile, de la grande toile qui annonçait l'exposition qui était devant le Grand Palais. Et là, je ne pouvais pas laisser passer cette aubaine. Donc, j'ai choisi de payer les droits d'image au musée de l'Ermitage, qui est tout à fait légitime. Qui, d'ailleurs,
Si on ne reconnaît pas l'image au final.
Oui, mais le but, c'est de le dire. Là, vous
D'accord.
avez un petit morceau d'une toile de Monet,
c'est
de femme au jardin.
C'est la collection Monet, donc.
Voilà, là aujourd'hui, sur Marcel Green, quand vous achetez un sac Bilhomme de la marque Bilhomme, vous achetez un sac entre guillemets anonyme, donc Air France, Renault, L'Oréal, Luxe International, etc. On a beaucoup d'annonceurs qui nous cèdent des toiles gratuitement, mais on ne le markete pas à l'intérieur, sinon ça deviendrait un sac de cet annonceur. Donc c'est un choix de leur part et de
l'autre
de ne pas l'identifier. En revanche, pour Monet, par exemple,
Ce sera une collection Monet à part entière.
C'est une collection spéciale. C'est une collection qui est en vente là depuis une semaine sur notre site. Et uniquement sur le site. Désolé Marcel. Mais là, par contre, on l'a clairement identifié. Ou on l'identifie aussi. Et ça, c'est l'autre côté très amusant. C'est qu'il y a 5 ans, quand je suis allée voir les annonceurs pour leur demander l'étoile, de nous céder l'étoile plutôt qu'elle ne soit brûlée. Déjà, beaucoup d'annonceurs ne savaient pas que les bâches partaient à la déchetterie ou étaient brûlées. Donc déjà, ça a éveillé en eux.
C'est incroyable, ça.
Non, mais c'est vrai que...
Ils ne s'étaient pas posé la question.
Non, mais moi, je ne l'ai fait pas en 7 ans.
Ils créent, ils affichent sans savoir...
Mais moi, la première...
Ils ne les désinstallent pas ?
L'annonceur, non. L'annonceur, il achète, c'est comme, je ne sais pas, quand vous achetez...
L'annonceur, d'accord.
Dans un journal ou... Non, là, je parle de l'annonceur.
Donc, il n'est pas tenu au courant par l'entreprise de communication qui s'occupe de l'installation ?
C'est pas qu'il est tenu au courant.
De la vie de sa bâche.
Mais non, mais même vous, je pense que vous ne vous en préoccupiez pas il y a
Oui, mais enfin, ça, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Je ne suis pas une entreprise qui...
Non, mais là, je pense qu'il n'y a même pas...
Je n'installe pas des bâches non plus. Je sais pas, il y a une espèce de correction à essayer de dire, voilà, la bâche. Il y a aussi, on est quand même dans une époque où le recyclage, on parle de développement durable. C'est-à-dire le développement durable, c'est aussi un concept qui est de réfléchir avant de le créer, quel va être l'impact du produit, quelles sont les méthodes qu'on va utiliser, la main d'œuvre, quelle va être, etc.
Justement, c'est le fait de les sensibiliser
C'est vous qui le faites finalement.
Les assemblées commencent à s'y mettre. Là, moi, je vous parle c'était il y a 6 ans tout ça. Hein. Il y a 6 ans, mais moi, la première, j'ai acheté et vendu des bâches pendant 7 ans. Très honnêtement, je ne me suis jamais préoccupée de savoir ce qu'elles devenaient. Et très honnêtement, j'en ai aucune honte à vous dire que je ne savais pas ce qu'elles devenaient. C'est juste que voilà, j'achetais une campagne et en revanche, je trouvais ça dommage de voir disparaître des campagnes parfois éphémères, puisque quand on parle d'ici.
Ça dure 4 jours.
Voilà, sur 4 jours, on a des bâches pour annoncer un salon pendant 4 jours. Bon, là, aujourd'hui, j'ai l'œil, donc je me dis, il y a des couleurs, des tonalités magnifiques. Et c'est vrai que parfois, je me dis, c'est dommage que ça parte. Mais voilà, je...
Donc, alors,
Je
reviens à ma question. Donc, au départ, donc, la bâche, là, c'est matière première... Zéro euro, hein, vous ne l'achetez pas. La transformation, tout ça va vous coûter combien à peu près ? Vous passez donc par des CAT, de la main-d'œuvre, on va dire, moi-même, hein, quand je fais des affiches pour Fréquence Terre, j'emploie des personnes en réinsertion tant que je peux. Là, il y a un coût de fabrication qui est de l'ordre de combien ?
Alors, ça va vraiment dépendre. En gros, on va dire que de la récupération du temps, en fait, c'est beaucoup de temps passé. Hein.
Oui.
Du temps passé à aller repérer la bâche, appeler l'annonceur, aller chercher la bâche, ou là, concrètement, on prend la voiture de bonhomme. En gros, on va avoir des coûts de 7-8 euros le mètre carré. Mais c'est vrai qu'au départ, on n'a pas de frais, on n'a pas de coûts d'achat de bâches. Par contre, on a énormément de coûts de transformation de bâches. Mmh. Dont d'ailleurs, malheureusement, le public n'a pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'en gros, malheureusement, on est souvent confronté au fait que comme on travaille dans le recyclage, nos produits devraient être quasiment gratuits.
C'est pour ça que je vous pose cette question.
Non, mais c'est
pour
qu'on
puisse faire une estimation un petit peu quand même du coût que cette transformation implique pour arriver au prix de vente après.
Donc on a un coût autour de 7 euros le mètre carré. Et après, on a des coûts de confection qui, là, par contre, ça va dépendre des sacs, mais qui sont des coûts de confection française et qui, en gros, sont exactement entre 7 et 12 fois supérieurs à ceux de la Chine.
Et toute cette transformation, on peut appeler ça de l'artisanat ou pas?
Ah oui, là, on est totalement artisan. Nous, à chaque fois, on repart à zéro.
Oui, puis avec des pièces uniques. Donc
on repart à zéro, c'est-à-dire que nous, on a un process qui ne sera jamais industrialisable. C'est-à-dire que, très clairement, un sac Bilhomme qui est vendu 140 euros en magasin ou sur le site de Marseille, etc., ce même sac, fabriqué avec de la bâche au kilomètre, que j'enverrai directement à une usine fabriquée en Chine, fabriquée au kilomètre, et que j'enverrai directement dans une petite usine chinoise, ce même sac arrivera à 25 euros en magasin.
Alors justement, pour arriver à visualiser un petit peu les sacs pour nos auditeurs, vous avez quoi comme sac? Quelle taille ça fait? On parle de sacs, mais c'est quoi? Ce sont des petits sacs, des pochettes, des grands cartables?
La cible, c'est principalement les femmes déjà.
Non, c'est possible. Non, parce qu'en fait, justement, on a une collection assez variée. On a une gamme de 16 sacs aujourd'hui. En fait, 16 sacs et accessoires, pardon. On a 4 ou 5 accessoires, dont un petit accessoire qu'on vient de lancer qui s'appelle le compagnon de voyage, dans lequel on met son billet de train, avec 3 petites pochettes, son billet de train, son passeport et son ticket de métro, etc. On l'a lancé il y a 6 mois, c'est un petit produit amusant, passe-partout.
Donc en là, bâche
c'est
toujours.
En bâche toujours, qu'on a fait en fait avec justement nos propres déchets. Quand on coupait des bâches pour faire des grands morceaux de sac, on avait nous-mêmes quelques petits déchets. Et c'est vrai que c'était
on
travaille sur des petits formats qui sont très esthétiques et assez amusants. Pour la petite histoire, celui qu'on appelle le compagnon de voyage, on l'a travaillé avec une fermeture éclair de la maison éclair qu'on a retrouvée. On a retrouvé la maison éclair qui a donné son nom au système de fermeture zip. La fameuse fermeture éclair.
Vous les avez retrouvées où ces fermetures?
En fait, c'est parce qu'ils ont changé de nom. Ils s'appellent Prime Éclair aujourd'hui. Mais en fait, pareil, on essaie d'être cohérent. Donc on fait très attention à travailler avec des accessoires qui soient soit européens, soit français. Mais tant que faire se peut, on travaille avec des accessoires qui soient de meilleure facture possible.
Voilà, hein, tout le côté éthique qui ressort. Donc.
Là, dernièrement, vous aviez un petit sac, je crois, que vous vouliez nous présenter. Le petit sac à course.
Ah oui, là, on a fait un...
Alors, attendez, on se penche sous la table. Allez-y, voilà. Ah, oui. Voilà, c'est chouette.
Ça, c'est de l'airbag. L'airbag, il faut savoir que c'est une matière c'est une matière hallucinante. C'est pour ça que ça me rendait dingue de la laisser partir à la poubelle. Attendez, je prends juste mon petit sac. L'airbag, c'est une matière qui a été créée par la NASA au départ, dans les années 60, pour faire descendre les capsules spatiales sur Terre.
Oula,
ils avaient besoin d'une matière surtout magnifique, c'est esthétique, c'est magnifique, non?
Ah oui, non, mais très chouette. Moi, un sac à dos comme ça, je prends.
On y travaille.
Il faut des bretelles.
On y travaille. Donc voilà, on s'adresse aussi aux hommes. L'airbag, juste pour revenir dessus, parce que ça, c'est une matière
sécurité.
On est les seuls au monde à récupérer
Ça, c'est les ceintures de sécurité. Ouais. D'accord. Très bien. On voit ces couches.
Ça, c'est une ceinture de sécurité Rover.
C'est ce qui donne bon pour nos auditeurs, hein, si on peut le décrire. C'est un sac beige avec des petites rayures bleues, des petites rayures très fines marron et en guise dense, donc des ceintures de sécurité marron qui descendent jusqu'en bas du sac et une poignée cousue qui a l'air. Tout ça a l'air très très solide. Hein. Ça, durée de vie certainement record, non?
Et fabriqué à 12 km de Paris. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que dans la démarche de Bilhomme, dès le départ, ça n'avait d'abord aucun sens d'envoyer de la matière à l'autre bout de la planète pour payer un sac moins cher. Et deux, j'avais envie de voir les gens avec qui je travaillais pour déjà une raison toute bête, c'est que je ne sais pas coudre. Donc comme je ne viens pas du tout du monde du stylisme, j'avais vraiment besoin de travailler les sacs, la matière, avec quelqu'un qui m'accompagne dans l'aboutissement de ce que je voulais donner au sac, que j'avais parfaitement visualisé dans ma tête.
Et que vous puissiez voir cette personne, la rencontrer, travailler
avec elle. Voilà, et j'avais besoin de travailler les yeux dans les yeux avec les gens avec qui je travaille. Et donc, il y a toute une démarche. Aujourd'hui, on travaille avec 5 ateliers français. Donc, 3 ESAT, une entreprise d'insertion sociale et un atelier privé.
Qu'est-ce que ça veut dire, Bilhomme?
Bilhomme, au tout départ, quand je me suis lancée dans l'aventure et que j'ai j'ai commencé à y travailler très sérieusement en me disant, tiens, c'est marrant, ça peut être marrant de faire des sacs. Enfin, ça se fait. En fait, déjà, il faut savoir que moi, j'ai rien inventé. Le sac en bâche récupérée, je ne l'ai pas inventé. Ça se fait en Suisse avec des bâches de camion. Mais surtout, et depuis bien plus longtemps, ça se fait au Brésil, en Inde, en Afrique. Le recyclage appartient aux pays pauvres. Et moi, j'adore cette idée de récupérer un concept d'un pays en voie de développement. En fait, c'est du bon sens. Récupérer un concept qui vient des pays en voie de développement, qui nous donne une leçon, je trouve ça juste très... Enfin, je trouve que c'est une leçon d'humilité qu'on a vraiment...
Voilà, vous l'avez mis en application, d'accord. On va s'arrêter ici, hein. Il est l'heure, on va passer à notre débat météo-climat. Emmanuel Bocry vient d'arriver, Jean Jouzel est avec nous. Nous allons installer le plateau. Et nous vous donnons rendez-vous pour retrouver les créations de Bilom sur bilom.fr, c'est ça,
oui.
Et sur le site de Marcel Green pour quelques exemples. Mais alors apparemment, il y a des séries exclusives à retrouver sur votre site.
Oui, mais il y en a des très, très, très... Il y a des très beaux sacs sur Marcel Green. Il vient de les choisir attentivement.
Merci, Hélène de la Mourière. On se retrouvera bientôt, soit à travers les Marcel Green qui parle souvent de vous et qui vous met en avant sur son site.
Merci à vous.